Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 15h et pas 18h dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi, donc de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, il est à mes côtés, bien sûr, pour vous distiller ses bons conseils. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors, au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons parler nutrition. Avec le régime baptisé One Day Detox, c'est la méthode du diététicien nutritionniste Maxime Mességuet. Il sera notre invité cet après-midi et il va donc nous détailler son programme à la promesse alléchante, un jour et un seul jour par semaine, qui permettrait de perdre du poids et d'atteindre un équilibre durable tout en prenant soin de sa santé, le tout sans frustration donc. Donc pour moi, bah, je sais pas vous, c'est assez tentant Jimmy, non?
Oui, complètement, un jour, je tente le pari.
On est curieux, on va voir. Ensuite, le vendredi, vous attendez bien sûr la chronique beauté de Benjamin Lévesque qui a décidé aujourd'hui de nous parler de l'intérêt du fonctionnement des soins de nuit. Est-ce que là, cela sert à quelque chose, tous ces masques de beauté finalement avec lesquels dort le docteur Jimmy Mohamed? Benjamin nous dira tout. Et puis vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique beauté et sa chronique sexo, pardon. Aujourd'hui, elle répondra à une maman très inquiète car sa fille adolescente ne lui pose aucune question sur la sexualité.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer avec cette question de Sophie.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. Donc, j'ai l'impression que la grippe a disparu cette année. Du coup, est-ce que ça vaut le coup de se faire quand même vacciner? Mon pharmacien m'a dit qu'il n'en avait plus de vaccin, mais qu'il en recevrait peut-être d'autres. Voilà, mais bon, si elle a disparu, à quoi bon? Voilà, si vous pouvez me répondre, merci.
Alors Jimmy, d'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce que la grippe a complètement disparu cette année?
Alors c'est vrai, d'après les indicateurs du réseau Sentinelle, c'est un réseau qui remonte justement toutes les informations liées à des infections, mais pas que la grippe. Et bien effectivement, il y a peu, voire pas de grippe, mais il y a aussi peu d'infections respiratoires en dehors du Covid. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de rhinovirus, on en a quelques-uns.
Vous êtes en consultation tous les jours, et donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les gens consultent pourquoi du coup?
Alors on a l'impression quand même qu'il y a un petit relâchement dans les gestes barrières, puisqu'on revoit quelques bronchites, quelques rhinopharyngites,
quelques varicelles, vous m'avez
quelques
dit
varicelles,
aussi.
Ouais. Quelques bronchiolites, de la gastro-entérite, même si les indicateurs pour l'instant sont plutôt rassurants. Et on a l'impression que l'épidémie est dominée par le Covid. Et d'ailleurs, les chiffres sont en train de remonter tranquillement.
D'accord. Alors, s'il y a une épidémie de moindre ampleur de grippe cette année, ou qu'il n'y en a pas du tout, est-ce que cela vaut le coup finalement de se faire vacciner?
Je pense que oui, c'est plutôt recommandé pour plusieurs raisons. À titre individuel, les personnes qui doivent se faire vacciner contre la grippe sont des gens fragiles qui vont faire peut-être une forme grave de grippe. À l'échelon collectif, on parie sur le fait qu'il n'y aura pas de grippe, mais on a fait beaucoup de paris, on s'est beaucoup trompé. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup.
Arrêtons les paris.
Retardons,
oui.
Exactement. Oui. Arrêtons de jouer à l'oracle. Et puis, soyons vigilants, on n'a aucune idée de l'impact d'une co-infection entre le coronavirus et la grippe. Oui. Si jamais vous attrapez les deux, est-ce que vous ferez une forme plus grave? On ne le sait pas. Donc, je pense que dans l'état actuel des connaissances, il est recommandé de vous faire vacciner. Encore faut-il trouver des vaccins.
J'allais vous le dire. Alors, si on parvient à en récupérer, je crois que normalement, certaines pharmacies devraient être réapprovisionnées. Quoique, si on arrive à en trouver un, qui doit impérativement se faire vacciner?
Alors, vous savez, il y a eu un message assez confus. On avait dit, faites-vous tous vacciner sans aucune preuve de la science à ce
niveau-là. Il n'y avait pas assez de vaccins.
On n'a pas assez de vaccins. Il faut vraiment que les personnes qui doivent se faire vacciner sont les personnes concernées par la vaccination, les personnes de plus de 65 ans, les femmes enceintes qui sont sous-vaccinées, les personnes à haut risque de complications, c'est-à-dire qui ont une maladie d'un organe, une insuffisance rénale, une insuffisance cardiaque, une insuffisance respiratoire. Et puis pour les personnes un peu plus fragiles, je vous recommande de vous faire vacciner, discutez-en avec votre médecin et normalement vous avez reçu ce bon de la Sécurité sociale 10 ans, vous pouvez aller vous faire vacciner gratuitement en pharmacie ou chez votre médecin.
Merci beaucoup Jimmy. On va passer tout de suite à la deuxième question de l'auditeur du jour. C'est Bruno qui vit en Ariège qui nous a écrit. Il vous demande, Jimmy, la chose suivante. J'ai souvent des maux de tête, peut-être pas des migraines, mais c'est en kikinant. Jusque-là, j'ai l'impression que le paracétamol fonctionnait, mais ce n'est plus le cas. Est-ce qu'il y a d'autres traitements, peut-être même plus naturels, qui pourraient aider? Jimmy, comment on fait la différence déjà entre un petit mal de tête et une migraine? Parce qu'il semble dire qu'il a mal à la tête, mais que ce n'est pas de la migraine.
Alors, la migraine, c'est 15% de la population, donc c'est assez fréquent. La migraine a des caractéristiques très précises. C'est des maux de tête qui vont durer entre 3 et 72 heures. Souvent, ça dure à peu près 6 heures. Vous avez la moitié du crâne qui est douloureux. Ça lance dans la tête comme si le cœur battait dans la tête. Vous avez de la nausée et parfois des vomissements. La lumière vous gêne, le bruit vous gêne. Lorsque vous pratiquez une activité, ne serait-ce que de la marche, les maux de tête s'intensifient et sont calmés par le repos. Si vous avez deux de ces critères-là, à chaque fois que vous avez des maux de tête, eh bien c'est de la migraine. Attention, la migraine commence souvent dans l'enfance avec un terrain familial, alors que les céphalées de tension, qui n'ont strictement rien à voir avec la tension artérielle, sont des maux de tête qu'on va avoir de façon diffuse, en fin de journée, en fin
quand
de semaine,
fatigué,
lorsqu'on
ou,
est fatigué ou que les enfants nous ont un peu tapé sur le système.
Ça, vous arrivez souvent. Alors Jimmy, il dit que le paracétamol ne fonctionne plus très bien sur ces maux de tête, qui sont peut-être des migraines à voir. Il y a d'autres traitements qui existent.
Le paracétamol n'est pas le traitement de la migraine. Un migraineux ne peut pas prendre de paracétamol car celui-ci ne marche pas. Donc si vos maux de tête sont soulagés par du paracétamol...
Donc ça veut dire que c'est peut-être de la migraine.
C'est peut-être de la migraine ou autre chose. Il a le droit d'avoir autre chose. Donc avant de faire ce diagnostic de migraine, puisqu'il faut plusieurs crises, 4 à 5 crises avant de poser le diagnostic, je recommande de consulter son médecin, même si on sait qu'il faut privilégier la famille des anti-inflammatoires pour le traitement de la migraine. Et il existe d'autres traitements qu'on appelle les triptans qui permettent de calmer les vrais migraineux, mais encore une fois, c'est sur prescription médicale.
D'accord, donc on consulte qui, son généraliste dans un premier temps ou un neurologue directement?
Inutile d'encombrer les cabinets de neurologie. Déjà, il n'y a pas beaucoup de neurologues. Le médecin généraliste a toutes les compétences pour faire le diagnostic, le suivi et même pour les migraineux chroniques d'avoir un traitement de fond. Et évidemment, lorsque la situation échappe au contrôle du médecin traitant, il est possible d'aller voir le neurologue, mais pour ça, soyez adressé, n'y allez pas de vous-même.
Merci beaucoup Jimmy. Alors si vous aussi, comme Jérémy qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour, c'est vous Maxime Mességuet. Bonjour.
Bonjour Mélanie. Bonjour,
vous êtes diététicien nutritionniste à Paris et à Bordeaux et vous êtes l'auteur du livre « Mon régime One Day Detox ». En deux mots, c'est quoi ce régime? Une nouvelle façon complètement de manger, de maigrir?
Exactement. Alors, plus qu'un régime, c'est... un vrai art de vivre.
Je préfère, moi, parce que Jimmy et moi, le mot régime, ça nous fait toujours un petit peu peur. Alors,
ça fait peur, ouais, le mot régime.
Vous l'avez mis quand même sur le bouquin, mais c'est plus un art de vivre. Alors expliquez-nous.
C'est plus un art de vivre, puisque finalement, au lieu d'avoir une restriction toute la semaine et le week-end de se faire plaisir, prenons les choses à l'envers. Et plutôt, un jour où on fait attention et le reste du temps, on mange normalement, en se faisant plaisir. Et voilà quoi.
Et ça veut dire quoi, se faire attention un jour de la restriction calorique? Ça veut dire qu'on fait un jeûne pendant une journée ou on est un peu plus vigilant? C'est quoi la restriction calorique?
Alors ça pourrait être un jeûne. Il y a certains patients qui font un jeûne d'une journée. Pourquoi pas? Moi, je l'ai rendu plus... C'est une restriction calorique importante.
Ils vous donnent deux cacahuètes. C'est bon.
Mais vous allez voir, c'est pas si catastrophique que ça. C'est pas si léger que ça. Et voilà, c'est une restriction calorique importante une seule journée par semaine et puis plus du tout de restriction par la suite.
Moi, je vois déjà Jimmy Mohamed très très content. Il frétille, il se dit « Ouh là là, ça c'est pour moi. Je vais faire 6 jours entiers de la semaine kebab, pizza et un jour de diète, on va dire. » Non, ça peut pas être ça non plus parce que ça marche pas. Sinon, s'il se lâche sur ces 6 jours kebab, barbe, frites,
attention
pizza...
Attention à votre réponse. Si vous me dites oui, je change mon alimentation de façon définitive.
C'est sûr que si on mange n'importe quoi toute la semaine et qu'on fait attention juste une journée par semaine, ça va pas fonctionner. Le tout, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, variée.
Avec des excès
mais sans restriction. Oui, bien sûr, avec des extras, enfin, tout en se faisant plaisir, tout en étant aussi à l'écoute de ses sensations alimentaires, c'est très important, la satiété, de ne pas se gaver, évidemment. Mais voilà, manger normalement et faire un peu plus attention une journée par
semaine. Une pizza, pas deux, Jimmy.
C'est ça, mais donc du coup, une journée, et si on fait 2 jours dans la semaine, est-ce que 2 jours c'est mieux qu'un seul ou est-ce que ça finit par devenir nocif? Vous parlez de restriction calorique importante une journée, mais si on l'accumule avec une deuxième journée en se disant j'ai commis un peu quelques excès, je vais me rattraper en ne mangeant pas le lendemain, est-ce que c'est pas contre-productif?
C'est pas le concept, en fait. Voilà, vraiment c'est une seule journée. Si vous faites une journée par semaine pendant une année, ça fait 52 jours, ça fait presque 2 mois. Finalement, si on voit les choses comme ça, c'est déjà pas mal.
Ouais.
Et en fait, à terme, si vous risquez de faire ça plus souvent, parce que vous vous dites ça va marcher plus vite, ça va être mieux. En fait, vous risquez finalement de bloquer le métabolisme et finalement de ne pas avoir l'effet escompté.
Alors, on va détailler comment ça fonctionne un petit peu plus tard. Mais moi, je ne sais pas, je me dis, si pendant une journée, je fais une fois par semaine, donc vraiment la diète complète, voire le jeûne, le lendemain, je vais me jeter sur de la malbouffe. Ou... Est-ce que ça ne crée pas des pulsions comme ça, quand même, le lendemain du jour de diète?
On pourrait le croire, évidemment. Ouais. Mais en fait, pas du tout. Je ne sais pas si vous avez déjà fait une journée de jeûne.
Des lendemains de réveillon, par exemple, ça peut arriver.
Ou en tout cas de manger moins pendant une journée. Le lendemain, vous n'avez pas nécessairement plus faim. Vous n'allez pas vous jeter sur la nourriture. Par contre, si vous faites ça plusieurs jours par semaine, la frustration va augmenter. Et là, vous risquez d'avoir des vraies pulsions. C'est là que C'est là que ça pose problème. Mmh.
J'ai l'impression que les gens en ont marre qu'on leur parle de régime, de ça qui est un diktat du poids, de la musculation et tout le tralala. Mais si on veut, pour sa santé, avoir une meilleure tension artérielle, éviter un diabète, éviter des maladies, est-ce qu'un régime comme ça peut améliorer ses paramètres? Parce qu'il y a le poids, mais il y a aussi la santé, et c'est peut-être l'impact le plus important, surtout en ce moment, en période de Covid, on se rend compte qu'il faut plutôt être plutôt mince et sans trop d'hypertension qu'en surpoids avec du diabète. Est-ce que ça pourrait marcher pour ça aussi?
Bien sûr, puisque finalement, un tel régime, entre guillemets, évidemment, ça permet d'atteindre son poids de base, hein, ouais. son poids de base, et donc du coup, son poids de forme, plutôt, excusez-moi, et donc du coup, ça peut améliorer certains paramètres, évidemment, l'hypertension, parce que cette journée-là, elle est sans sel, hein, donc du coup, ça a un impact sur l'hypertension, et puis quand on perd du poids, les kilos en excès, évidemment, ça améliore tous les autres paramètres. Donc, et puis mettre le corps au repos, sur une journée, c'est quand même assez intéressant.
C'est pour qui ce régime? Parce que bon, on l'a dit, là, ça peut aider effectivement les gens qui sont en surpoids, on l'a bien compris. Mais alors, c'est-à-dire, quel surpoids on parle? Parce que, est-ce que par exemple, pour des personnes souffrant d'obésité, ça peut suffire? J'imagine que non, enfin, je ne sais pas.
Vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Une personne qui souffre d'un fort surpoids, pourquoi pas,
hein, plutôt
que de faire des régimes
ça,
très, 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 très restrictifs. Et puis surtout, le fait de faire une journée par semaine, ça a l'air de rien comme ça, mais on change aussi ses habitudes progressivement sur le long terme et les autres jours de la semaine aussi.
Est-ce qu'il faut que ce soit toujours le même jour d'ailleurs ou pas? Parce que je peux me dire, tiens, cette semaine c'est dimanche et puis la semaine prochaine je ferai le mardi ou
alors,
on s'en fiche?
On peut. De toute façon, le but c'est de le faire une fois par semaine. Après, c'est vrai que pour l'ancrer dans une habitude, c'est mieux de le faire tout le temps la même journée et de décaler de temps en temps, quoi.
Et plutôt le week-end ou la semaine alors?
Alors moi je conseille plutôt la semaine parce que le week-end c'est fait pour, on travaille toute la semaine, fait pour profiter quand même et puis pas trop se prendre la tête avec l'alimentation.
On va choisir le lundi alors.
Et le lundi c'est bien, il n'y a pas trop de sociabilité, on sort moins, c'est pas mal.
Bon, très bien. Maxime Mességuier, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes, vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est vous, Maxime Mességuier. Je rappelle que vous êtes diététicien, nutritionniste à Paris et à Bordeaux et que vous êtes l'auteur du livre Mon régime One Day Detox, publié chez Le Duc Pratique, livre dont on parle aujourd'hui. Et dans ce bouquin, vous parlez de vos 10 aliments chouchous, des 10 aliments chouchous de votre régime détox. On va les passer en revue. D'abord, évidemment, ça on connaît quand même un petit peu pour ceux qui ont déjà essayé de perdre du poids, les viandes maigres. Pourquoi elles sont si intéressantes que ça?
Et alors, les viandes maigres, parce que finalement, elles sont peu énergétiques, il y a peu de graisse dedans, donc c'est riche en protéines, ça va amener de la satiété et il y a peu de graisse, donc c'est très intéressant. Il y a les viandes maigres, mais il y a aussi les poissons, hein, les poissons blancs ou même les poissons gras d'ailleurs, puisque finalement, ce sont des bonnes graisses, donc...
Moi, j'adore la peau du poulet. Alors, sous la peau, il y a la viande blanche, mais est-ce que la peau du poulet, elle n'est pas trop grasse?
Sur cette journée-là, on va l'éviter.
Ouais,
voilà.
D'accord. Je mange mon poulet, juste le blanc, et puis je garde la peau pour le lendemain. Hein, c'est ça,
voilà, on fera ça. C'est ça, ce sera très bien.
Juste, du coup, peut-être pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi une viande maigre? Parce que est-ce que le steak haché, c'est une viande maigre? Est-ce qu'on parle que du blanc de poulet? Est-ce que, la tranche de jambon fumé, est-ce que c'est du blanc? Est-ce que c'est une viande maigre? Comment on fait pour choisir?
Alors, on va choisir une viande maigre non transformée. Donc, tout ce qui est charcuterie et tout ce qui est traité en salaison, comme dans cette journée, on évite les aliments salés et industrialisés. On va éviter ce type d'aliment.
Donc, un blanc de poulet fermier, ok. C'est quoi? Poulet, dinde, il y a quoi dedans?
Poulet, dinde, lapin. Et pourquoi pas une viande rouge maigre? De temps en temps, c'est tout à fait possible.
Et qu'est-ce que c'est qu'une viande rouge maigre? Parce que pour moi, c'est l'entrecôte. L'entrecôte, 250 grammes d'entrecôte.
Ouais, mais alors je pense que c'est pas maigre, Jimmy. Non. Quand on vous voit d'ailleurs, on a compris que ça marchait pas très bien.
C'est pas maigre.
D'accord.
En revanche, le steak haché 5%, la bavette, c'est pas très gras. Le poisson, steak, etc.
Vous disiez les poissons, mais on choisit lesquels là aussi? Parce que dans les poissons aussi, il y a des poissons gras, des poissons moins gras. Qu'est-ce qu'on peut...
On choisit ce qu'on veut, juste pas traité en salaison, donc pas de conserve. On fait attention qu'il soit frais aussi. Souvent dans les poissons congelés, il peut y avoir une injonction de sel. Regardez bien les étiquettes des choses que vous achetez. Voilà, le plus naturel possible. C'est ça qui est important.
Et c'est la même chose pour les fruits de mer aussi. Là, c'est la saison, les huîtres, les crevettes. Est-ce que c'est une bonne... est-ce que c'est une bonne façon aussi de rajouter ça dans notre alimentation?
Crevettes, très bien. Après, comme on évite le sel sur cette journée-là, encore une fois, peut-être qu'on me laissera un petit peu de côté.
Les œufs, est-ce que ça fait partie de cette journée détox? Parce que les œufs aussi, on a l'impression que c'est gras, il y a du cholestérol, mais je ne sais pas.
Alors les œufs, ce n'est pas si gras que ça. Oui, c'est un peu gras, mais c'est un gras plutôt du bon gras. On choisira surtout des œufs de qualité, encore une fois.
Et c'est quoi un œuf de qualité?
Parce que c'est un œuf.
Des fois, on prend les œufs un peu à l'arrache. Hein, on se dit
non, pas moi. Ça,
non,
c'est
il faut
vous.
Savoir. Non, mais il faut être connu.
Moi, je regarde toujours s'il y a un zéro dessus.
Ah bah, très bien. Ah, zéro, ça veut dire hein. Bio. Donc, c'est très bien.
Élevage en plein air. Voilà, tout ça. Plus le chiffre est élevé, moins c'est bon, Jimmy.
0, 1, c'est bien. 2 et 3, c'est pas bon. Ça veut dire que la poule était en batterie. Elle avait peu d'espace. Elle était stressée. Peut-être nourrie avec des antibiotiques. Et donc, un œuf de mauvaise qualité que nous allons manger et que peut-être vos enfants vont manger. Donc, il faut bien comprendre que la façon dont
on sent que les œufs, ça vous tient à cœur.
Non mais parce que on fait pas attention tellement à ce qu'on mange. Mais les œufs c'est important et on les fait comment? Est-ce que on fait une omelette, un œuf au plat? Est-ce qu'on fait un œuf à la coque? Est-ce qu'il y a une bonne façon de manger des œufs?
Choisissez la façon que vous souhaitez. Après, comme on va limiter aussi les matières grasses sur cette journée-là, encore une fois sur cette journée-là,
mieux, c'est
pas
à la
les
coque,
œufs durs.
Alors
à la coque, c'est pas mal. Les œufs durs ou alors une omelette mais sans matière grasse ou très peu quoi.
Dans cette journée détox, on peut manger des légumes, j'imagine. Est-ce qu'il y a des légumes à privilégier ou est-ce qu'on se fait plaisir, on choisit tout ce qu'on veut?
Alors, on doit en manger, il faut en manger.
Tous les jours d'ailleurs, pas que ce jour-là.
Voilà, et donc l'intérêt, c'est de prendre deux saisons, deux qualités. Après, nature, pas en conserve parce qu'il y a souvent du sel aussi dedans. Mais voilà, deux saisons de qualité, ça sera.
Les
ça
fruits,
sera
on a, est-ce qu'on a droit aux fruits? Parce que ça reste assez sucré. Je ne sais pas si je mange 10 pommes dans la journée avec des fraises et une mangue. Est-ce qu'on remplit le pari malgré tout? C'est plus tellement du jeûne, ça.
Non, voilà, évitez de manger beaucoup de fruits, 3 fruits par jour maximum.
Dans ça cette journée de jeûne, ça va?
Ça sera le seul apport en glucides, donc ça ne sera pas énorme et ça sera suffisant. C'est sûr que si vous mangez 10 pommes, ça ne va pas le faire.
Les fruits secs, oléagineux, je crois que vous les aimez bien aussi. Dans cette journée, ils ont leur place dans cette journée détox?
Oui, surtout le matin au petit déjeuner, parce que ça amène de la satiété.
Au petit déjeuner, il y a beaucoup de graines, hein, j'ai l'impression.
Ouais.
faut que vous changiez un peu d'habitude, Jimmy, je crois.
Ah oui.
C'est assez pratique, encore une fois, hein, sur cette journée-là, mais c'est assez pratique, c'est énergétique, c'est vrai, mais. Tout dépend de la quantité qu'on va prendre. Et puis comme c'est riche en protéines, c'est riche en matières grasses, ça va amener des bonnes choses et ça va permettre de caler aussi pour la matinée.
Les épices aussi, on en met quelques-unes?
Alors il faut en mettre beaucoup parce que comme on cuisine sans sel, autant y aller hein, sur les épices, utiliser aussi les condiments tels que l'ail, les échalotes. Faut y aller, quoi. Faut donner du goût. Hein. Le but, c'est que ce ne soit pas une journée triste où on mange des trucs sans saveur. Donc on cuisine.
Merci Maxime. On va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans Sans Rendez-vous et nous accompagne cet après-midi, c'est Maxime Mességuet. Vous êtes diététicien nutritionniste à Paris et à Bordeaux. Vous êtes également l'auteur du livre « Mon régime One Day Detox » publié chez Le Duc Pratique. Alors Maxime, on va détailler encore un peu plus en pratique la journée détox, la fameuse seule journée où finalement il faut se priver dans votre régime. Donc cette journée qui est très stricte finalement, dès le matin. Vous avez dit, bon, le mieux, si on y arrive encore, c'est peut-être de faire le jeûne complet. Mais si on n'y arrive pas, parce que nous, Jimmy et moi, on ne va pas y arriver, c'est sûr. On peut se permettre de manger quoi? Alors, vous disiez peut-être des oléagineux éventuellement le matin, dans cette journée détox?
Oui, exactement. Un fruit, des oléagineux, ça va amener des protéines, des matières grasses. Ça va permettre de tenir aussi dans la matinée, c'est pas mal. Les graines de chia aussi.
Comment on mange ça? Ouais, j'allais dire, parce que je sais jamais. En fait, je vois toutes ces petites graines noires là. Je me demande toujours comment ça se mange.
Ben, c'est bien de les faire tremper dans.
Ça grossit après, c'est ça.
Exactement. Mmh. C'est pas mal.
D'accord.
Vous tout le monde n'aime pas, mais
essayez.
Ça vaut le coup d'essayer.
Ouais, je suis pas sûr que.
Il y a pas très graines, hein, Jimmy.
je ne suis pas un moineau, dites-vous bien. Alors, en fin de matinée, est-ce qu'on aura une petite collation? Parce que je suppose qu'il y a peut-être un petit coup de barre et une petite faim vers 11h.
Lui, si vous lui donnez des graines de chia le matin,
ça va être dur. Vous
êtes sûr qu'à 11h, il
pourrait être étonné. Mais oui, on peut prendre un fruit. Si on n'a pas pris le fruit le matin, pourquoi pas le prendre à 10h?
Qu'est-ce que vous conseillez au déjeuner du coup de cette journée détox? Le menu type, on va dire, que vous proposez dans votre livre. Il y en a plusieurs, mais qu'est-ce qu'on pourrait manger?
Oui, ça pourrait être par exemple, si on est végétarien, ça pourrait être du tofu par exemple, avec des légumes, voilà, ou des lentilles par exemple, des légumineuses avec des légumes cuisinés.
Le tofu, il faut faire attention à comment on le choisit aussi, hein, faut pas qu'il soit déjà préparé.
Oui,
pas
salé. En fait, voilà, il faut pas que ça soit préparé avec des sauces sucrées ou salées d'ailleurs. Voilà, tout simplement.
Et c'est une petite question, mais pourquoi cette fixation sur le sel, en particulier sur cette journée? Comme si on avait mangé du sel, on foutait tout le régime en l'air.
Non.
Parce que je pense que le sel, il faut qu'on fasse attention d'une façon générale.
Ça, c'est sûr, mais
toute la semaine, on consomme deux fois plus de sel que les recommandations nécessaires. Mais est-ce que c'est si important que ça, ce jour-là, de dire non, on va faire une vraie restriction salée?
Ça permet aussi de se désintoxiquer en quelque sorte du sel et d'ensuite consommer moins salé un peu naturellement. Et puis, ça permet aussi d'améliorer... plus ou moins vous mangez de sel, mieux il va y avoir un côté diurétique aussi et une élimination des toxines plus importante.
Donc le sel est interdit, ça on l'a bien compris dans cette journée détox, mais il y a plein d'autres, il y a pas mal d'autres choses qui sont interdites, parce qu'on a vu finalement on a le droit de manger de la viande maigre, on a le droit de manger des fruits, des oléagineux, mais qu'est-ce qu'on n'a pas du tout le droit de manger ce jour-là ?
Tous les trucs très industrialisés et très transformés, en fait.
Ça va être quoi, par exemple ?
Ça va être tout... par exemple, on pourrait se dire, tiens, je vais prendre une soupe de légumes, mais du commerce.
Non.
Forcément, il va y avoir beaucoup d'additifs ou beaucoup
de
sel.
Une soupe, oui, mais il faut la faire soi-même.
Une soupe, il faut la faire soi-même.
La pâte à tartiner, non.
Parce qu'il va y avoir trop de... Enfin, voilà, tout ce qui est très transformé, en fait, ça permet, on se dit,
pas
sur cette journée,
pas d'alcool non plus,
on évite ce qui est transformé et on transforme les choses nous-mêmes. Comme ça, on sait ce qu'il y a dedans. Et l'alcool, évidemment, ce serait pas détox s'il devait y avoir de l'alcool sur ce jour-là.
Vous avez dit qu'on avait quand même droit aux légumes, mais on peut mettre un peu d'huile d'olive, des trucs comme ça dessus. Non, normalement, si c'est détox, il n'y a pas de gras.
Le but, c'est d'avoir une restriction calorique la plus forte possible. Après, s'il y a un petit peu d'huile, plutôt de l'huile extra vierge et tout, il n'y a pas de problème. C'est juste, le but, c'est d'essayer d'avoir une journée avec le moindre apport calorique possible.
Est-ce qu'on a le droit de boire du lait dans cette journée ? Et si on parle de lait, est-ce que, je sais pas, le fromage, ça fait partie ? Est-ce qu'un verre de lait, ça pose problème ?
Alors, moi, je ne le mettrai pas. Si vous prenez un verre de lait, c'est pas dramatique, mais bon, le lait, ça c'est un peu ambivalent. Et l'éviter, c'est idéal sur cette journée-là et tous les produits laitiers aussi.
Dans votre livre, vous faites appel à la phytothérapie aussi pour nous aider à s'amincir, à se sentir bien dans son corps. Vous parlez notamment de boissons drainantes dans votre bouquin, par exemple la sève de bouleau. Comment ça se consomme ? C'est quoi ça ?
Oui, la sève de bouleau, c'est très bien. C'est drainant et reminéralisant. Ça se consomme frais en général au printemps, hein, elle est fraîche. Mais on la trouve aussi maintenant... non fraîche et tout aussi intéressante, c'est à prendre un verre le matin comme
et ça aide
à jeun. Et donc ça aide à éliminer et en même temps ça reminéralise, donc c'est très intéressant. Ça,
je vois bien Jimmy avec des graines de chia, de la sève de bouleau, vous allez être super cet été. Hein,
oui, et un peu de fenouil, le fenouil c'est pas mal. Hein.
Ah, le fenouil, oui, et les graines de fenouil aussi sont très
pour
bien
le vent, pour le limiter
les ballonnements.
Quand on mal au bide, oui, c'est bien le fenouil.
Exactement.
Et on va perdre combien avec ce régime ? Une journée par semaine ? Combien on peut espérer perdre ?
Le goût de la vie, vous perdez.
Une journée par semaine, exagéré.
Ça va être 2 mois dans l'année, Jimmy.
On peut perdre, ça dépend des personnes, mais on peut perdre, par exemple, 100 grammes par semaine. Et ça fait 5 kilos d'or en un an.
Bon, c'est voilà. Pas mal, merci.
Mais c'est qu'une seule journée par semaine. C'est très important de le dire et de le rappeler, parce que sinon, évidemment, ce serait très triste.
Très bien, merci beaucoup. Je rappelle justement, pour ceux qui voudraient en savoir plus, le titre de votre livre, Mon régime, One Day Detox, paru chez Le Duc. Pratique. Merci encore, Maxime.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors à présent, il est temps de soigner votre apparence avec la routine beauté.
Routine.
Oh là là, dis donc, c'est vendredi, hein, Jimmy.
Ah, vendredi, c'est
enfin,
pas
vous m'aidiez à faire un peu d'orthophonie, je crois, ce week-end. On a l'habitude de chouchouter sa peau en journée, Benjamin, mais on va le voir avec vous. C'est indispensable aussi de prendre soin de sa peau la nuit.
Et oui, puisque la nuit, notre peau s'auto-répare. Donc la première chose à faire, si on veut avoir une jolie peau, et bien c'est de bien dormir, comme le raconte Kathleen Emery. Elle est responsable des soins de la peau chez Mavala.
Alors, le cycle nocturne, déjà, il est basé sur un cycle de chronobiologie vraiment très précis, qui suit un cycle vraiment très identifié, qui commence par une phase de détoxification. Donc, c'est vraiment le moment où la peau, elle va se libérer de toutes les toxines, de tous les déchets accumulés pendant la journée. C'est vraiment le moment, comme je disais tout à l'heure, du grand ménage. Donc ça prend à peu près, on va dire, une bonne heure. Hein, c'est vraiment la toute première phase du cycle lorsqu'on s'endorme. C'est peu après l'endormissement. Ensuite, on a la phase de réparation, vraiment de division cellulaire. C'est la phase où les cellules s'activent. Les cellules se multiplient, se reconstruisent. Les cellules souches remplacent les cellules qui vont progressivement mourir.
Et c'est justement pour aider notre peau à se réparer des agressions de la journée que l'on va appliquer des soins de nuit. On va l'aider à se régénérer, idéalement vers 22-23 heures. Enfin, il faut vraiment attendre le tout dernier moment avant de se coucher pour l'utiliser.
Et Benjamin, elles ont quoi de particulier ces crèmes de nuit ? Est-ce que je peux utiliser ma crème de jour le soir aussi ?
Eh bien non, ça n'a aucun intérêt, Jimmy, car
voilà,
la crème de jour contient par exemple des filtres UV. Or, la nuit, il n'y a pas de soleil, donc c'est inutile. Au contraire, les crèmes de nuit sont bourrées d'actifs anti-âge comme la vitamine C ou des acides de fruits qui vont au contraire perdre leur efficacité à la lumière. Il faut donc bien choisir sa crème de nuit, selon Kathleen Emery.
Bon, déjà, si on a une peau sèche, il faut privilégier les textures qui sont un peu plus réconfortantes, un peu plus généreuses, un peu plus moelleuses, un peu plus riches aussi, qui vont permettre d'avoir une meilleure réparation du film hydrolipidique. La nuit, il faut savoir que la peau, elle perd de l'eau à vitesse grand V. Donc, de l'eau et du gras en même temps. Donc il faut vraiment la protéger quand on a une peau sèche. Il faut profiter de la nuit pour lui donner un peu un cocon qui va permettre de lui apporter par exemple des acides gras. Si au contraire on a une peau à imperfection, à tendance acnéique par exemple, il faut vraiment pas en mettre trop pour ces peaux-là. Il faut les laisser respirer, il faut des textures qui sont vraiment non comédogènes pour que la peau puisse évacuer naturellement son excès de sébum. Il faut pas bloquer à l'intérieur de la peau. Il faut vraiment que ces peaux qui ont besoin de respirer.
Et pas la peine de se ruiner, hein. Vous pouvez fabriquer votre propre sérum de nuit.
Jimmy met des concombres en rondelles, ça suffit, non ?
De sa cuisine. Par exemple, le Vanilla Skin, c'est une recette maison pour régénérer votre peau de Pauline Dehaec. Elle est auteure du livre « Ma cosmétique minimaliste » aux éditions Thierry Soucard. On l'écoute.
On a besoin donc d'huile végétale. Tout d'abord, l'huile de noisette, qui est une huile sèche, donc qui va servir de base pour ce sérum, qui s'applique très bien, qui pénètre très très bien. On va avoir besoin d'huile de bourrache, qui a des propriétés régénérantes. On aura aussi besoin de macérat huileux de carotte, pour son petit côté bonne mine, qui va permettre d'avoir un teint un peu plus hâlé. Et on va utiliser aussi de l'extrait naturel de vanille, le même qu'on prend en cuisine finalement, pour essentiellement parfumer, donner une odeur sympa. Donc il faut juste prendre un flacon de 30 ml, un flacon en verre de préférence, vraiment bien propre, bien désinfecté. On le remplit de moitié d'huile de noisette et ensuite la moitié qui reste, on va faire moite-moite, on va dire, entre l'huile de bourrache et le macérat huileux de carotte. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on verse 15 gouttes d'extrait naturel de vanille. Et ensuite, on referme le flacon, on secoue bien et c'est prêt.
Et évidemment, bien se nettoyer le visage avant hein, pour déboucher les pores et se débarrasser des impuretés avec une petite eau micellaire ou un lait démaquillant.
Bon, bah c'est bon, Jimmy, vous avez tout ce qu'il faut.
Évidemment.
Vous êtes parfait. Dès ce soir, allez, aux soins de nuit.
Au
merci
concombre.
Beaucoup, Benjamin Lévesque.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est bien sûr sur Europe 1. Vous êtes dans Sans Rendez-vous avec le docteur Jimmy Mohamed. Alors pour cette dernière séquence de la semaine, c'est Catherine Blanc qui entre en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, on va terminer la semaine avec une question de Nadia. Je vous la lis tout de suite. Ma fille de 17 ans s'apprête à avoir des rapports sexuels avec son copain avec qui elle est depuis un an. Nous le connaissons avec mon mari, il est super. J'ai lu... Et elle dit « Je sais, c'est mal » sur son Twitter, qu'elle avait très peur d'avoir mal, d'être nulle. « Ne me jugez pas, j'ai honte, mais elle nous parle peu. Comment la rassurer sans qu'elle comprenne que j'ai fouillé dans ses affaires ?» Catherine, bah, c'est pas bien ce qu'elle a fait la maman, d'aller vérifier, d'aller fouiller dans ses discussions finalement avec ses copains, j'imagine, ou ses copines.
Bah, c'est sûr que c'est pas bien, mais donc on voit bien que « ne me jugez pas », donc ce qui veut dire...
Elle le sait que c'est pas bien, je crois.
Voilà, donc je pense qu'elle elle est au fait de ça, mais ça rend bien compte de ce qui doit se jouer dans les relations, même avec sa fille. C'est-à-dire que si la maman pense qu'elle peut être jugée, la fille doit aussi penser ça pour pas pouvoir échanger tranquillement sur des sujets.
Avant, les mamans allaient fouiller dans les journaux intimes, elles le font plus parce qu'il y a moins de journaux.
C'est moins de journaux, c'est dommage d'ailleurs, c'était aussi une jolie chose. Mais voilà, donc en tout cas, elle l'a vu, bon, on va pas, c'est pas là sa question principale. Donc essayons de voir sur la question de la peur qu'elle a pour sa fille, tout simplement. C'est-à-dire, la fille a peur d'avoir mal et la mère n'est pas censée le savoir et pourtant la fille va être dans un passage à l'acte qui l'inquiète. Donc je crois qu'il faut... Puisqu'on le sait, on ne va pas faire comme si on ne le savait pas. Il faut simplement inviter à s'exprimer en disant « Ma chérie, je ne sais pas où tu en es avec ton petit ami. Vous êtes trop choux tous les deux. Peut-être que je ne sais pas si vous avez déjà fait l'amour. »
17 ans, ça fait un an.
Voilà,
c'est dans la moyenne. Hein,
voilà, je me dis que peut-être tu as des questions ou des inquiétudes. Si tel était le cas, tu pourrais me les poser. Ou si je ne peux pas te répondre, on pourrait trouver quelqu'un auprès de qui. Parce que ça sert à rien d'aller voir de laisser son enfant quand on la sait en difficulté, appelant un au secours un peu vague sur la toile de ses copines, c'est un peu dommage.
Du coup, on essaie d'en parler en se cachant un peu les choses, en faisant semblant de ne pas avoir lu les messages, mais néanmoins, si derrière, elle répond par la négation en disant non, moi tout va bien, écoute maman, je compte ne pas avoir de rapport sexuel, je vois pas de quoi tu parles. Est-ce qu'on insiste ou est-ce qu'on... On passe à autre chose en disant, bon, bah, soit elle n'a pas besoin de conseils, soit elle ne veut pas en parler.
Je crois que les enfants, vous savez, il faut y aller à plusieurs fois, parce que souvent, ils vous disent non sur quelque chose qu'ils désirent, parce que, justement, le sujet est un sujet compliqué. Vous voulez leur donner quelque chose qui force un peu leur pudeur, parce que ça révèle leur désir. Eh bien, ils vont me dire, non, mais j'en ai pas besoin, non, mais c'est pas grave, mais il faut être un peu plus chaleureux en disant, ça me ferait plaisir, en tout cas, d'échanger avec toi là-dessus, parce que c'est des histoires de femmes, on pourrait échanger toutes les deux. Alors peut-être qu'il y aura une fin de non-recevoir.
trouve face à un mur et qu'elle lui dit non, maman, j'ai pas du tout envie de parler avec toi, bon, bah,
ah,
tant
bah,
pis.
Là, on respecte, ouais. Là, bien ouais. sûr. Mais c'est pas parce qu'on vous a dit non une fois que, sans être lourd.
On peut insister une deuxième fois.
C'est pas insister, ouais. C'est juste réouvrir en disant, tu sais, parce que moi, je me souviens à mon époque, j'aurais aimé que ma maman me permette ouais. ça, ou même si d'ailleurs, elle aurait été peut-être très, très maladroite, mmh. comme ça, on se projetait, même si on est maladroite.
Si on est nul,
mais voyez, je crois que c'est une façon de dire, parce que je me disais, tu vois, la dernière fois, je regardais un film, il y avait une jeune fille, même si c'est soi qui avons vu le tweet aux copines, et qui disait que et sa maman ne savait pas. Et je me dis que si ça avait été toi, j'aurais aimé que tu sois en sécurité. Vous voyez, on peut quand même, on n'est pas obligé, sous prétexte de sa culpabilité, d'avoir lu ce qu'en effet, on n'aurait pas dû lire. Bah, autant en faire quelque chose pour faire du bien à son enfant.
En même temps, elle le met sur Twitter, mais elle ne le dit pas à sa mère. Enfin, c'est
oui,
un
c'est
peu...
pour ça, je dirais, elle le met ouais. sur la toile quand même. Donc, d'une certaine manière, elle le divulgue sans avoir en face des gens qui vont pouvoir y répondre de façon rassurante. Donc, elle se met un peu en risque, cette jeune fille.
Est-ce qu'il ne faut pas aborder ces problématiques avant de découvrir ce genre de message? Est-ce qu'il ne faut pas anticiper 17 ans, est-ce
que c'est pas tard
pour en parler? Est-ce que du coup, vers 15 ans, il faut commencer à parler de ça? 16 ans, est-ce qu'il y a une règle d'ailleurs?
Il n'y a pas de règle, parce que vous pouvez penser que c'est 15 ans qu'il faudrait le dire, et puis vous découvrez que les enfants l'ont fait avant. Et si c'est trop tôt, c'est trop tôt. De quoi se mêlent les parents quand ils se mettent à aborder la sexualité? Donc voilà, je crois que s'il n'y a jamais vraiment, c'est à chacun de sentir son enfant, à chacun de voir ce qui évolue.
En tout cas, quand il y a une question, on y répond.
Et puis régulièrement dire, tiens, à l'occasion d'un film, à l'occasion d'une chanson, à l'occasion de plein de choses, c'est montrer qu'on peut en parler. Pas de toi, mais parler du sujet. Parce que l'enfant, parfois, aime bien l'idée que l'on parle de quelque chose tant que ça ne le concerne pas. Donc, ça peut être à l'occasion. En ce moment, je crois qu'on communique beaucoup sur les sujets de la sexualité, des agressions, des malentendus, échanger comme de façon un peu large, un peu générique sur le sujet permet d'ouvrir le champ des possibles de la communication entre une mère et sa fille.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end à tous. Dans un instant, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël. Bonjour messieurs.
Bonjour Mélanie.
C'est la fête Mélanie. Aujourd'hui, spécial bamboche avec Stéphane Bern et Bruno Solo, notre invité spécial qui présente la Guerre des Trônes ce soir sur France 5.
Bah justement, oui, les rois de la fête. Ah. Bah, son émission, c'est sur Louis XIV. Ça tombe bien, hein, il aimait faire la fête. En tout cas, l'offrir pour domestiquer sa noblesse. François Ier, qui aussi adorait faire la fête, surtout pour inviter le roi Henri VIII au camp du Drap d'Or. Et vous avez trouvé un roi de la fête très parisien.
Oui, qui nous a quittés en 2020 et chez qui vous avez d'ailleurs participé, m'a-t-on dit, à l'anniversaire de Nana Mouskouri.
Oui, c'est vrai.
Michou, évidemment, icône de la nuit parisienne qui nous a quittés.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. Nous serons à l'écoute et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.